Qu'est-ce qui est culte ?
Le culte traditionnel.
Ce peut être une chanson, un film.
Est-ce que vous essayez de me dire que j'aurais un ticket avec ma mère ?
Malheureusement.
Un livre, une pièce de théâtre, un poème, une émission de télé.
Ça tourne ?
Salut, c'est Casimir.
Une émission de radio, une série.
Messieurs, pouvons le reconstruire.
Au début, cet objet culturel dérange. Il divise, il étonne. Puis, comme un bon vin, il s'affine, se divinifie en mûrissant. Alors, il devient culte.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux.
Tous ensemble, célébrons le culte.
Mais avec plaisir.
Europe 1.
Les surprises, t'es peut-être pas au bout.
16h, 18h, culture culte.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Carl Zéro.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, chères auditrices, chers auditeurs, chers vacanciers, chers travailleurs, bienvenue dans Culture Culte. Vous l'avez compris, nous allons célébrer avec Anissa, une fois de plus, le culte aujourd'hui. En compagnie d'un grand témoin, culte lui-même s'il en est, dont la carrière est déjà culte et s'est nourrie de multiples rencontres et influences, toutes plus cultes les unes que les autres. Littérature, philosophie, musique, cinéma, radio, télé, politique, nous allons tout passer ensemble en revue. Merci Michel Onfray d'être à nos côtés pendant ces 2 heures de pur culte.
C'est moi qui vous remercie.
Oh, c'est gentil. Alors Michel, c'est ta vie que tu vas entendre défiler au travers de tes choix, puisque tu as rempli docilement le questionnaire culte qu'on t'a envoyé précédemment. Et puisque c'est aujourd'hui toi le grand maître du culte, tu vas nous dire en quelques mots ta définition de ce qui est culte.
Alors, le culte, à une époque, il était social et collectif. On avait des mythes pour ça. Aujourd'hui, tout ça ayant explosé, les cultes sont personnels, subjectifs. Donc, ce sont des histoires particulières.
Il y a quand même des chapelles qui se réunissent autour d'un film, d'une chanson, autour d'une pièce.
Une émission télé.
Ben oui. Tu les vois pas, ces petites chapelles ?
Non, pas du tout. Non.
Mais où vis-tu ?
Ben justement, en dehors des chapelles. Loin du monde.
Mais attends, par exemple, les gens qui admirent, qui aiment Michel Onfray, ils forment une chapelle culte.
Hélas.
Dont tu es le dieu.
Non.
Mais si.
Ben, oui, mais
tu
ça,
leur dis que non, mais eux t'adorent.
Oui, mais ça, j'ai du mal avec ça, oui.
Alors, pour préciser ta vision du culte, qui pour l'instant n'est pas très claire dans ma tête, je vais te proposer différents personnages qui sont culte ou pas. Donc, je te dis des noms de personnes. Oui. Ils ont un point commun. Ils s'appellent tous Michel. D'accord ?
Hélas.
Et tu me dis culte ou pas culte ?
J'ai ça en doux.
Michel Audiard.
Ah oui.
Culte.
Oui.
Michel Aumont.
Culte aussi.
Culte aussi. Michel Barnier.
Pas culte du tout.
J'adore. Michel Berger.
Oui, culte aussi.
Culte. Michel Boujna.
Aussi.
Michel Blanc.
Aussi.
Michel Bouquet.
Ah oui, culte.
Ah, il y a beaucoup de Michel culte, vous voyez.
Ah ouais, c'est la farandole du Michel culte aujourd'hui. Michel Charras.
Pas culte du tout.
Michel Debré.
Non.
Non ?
Si, Michel Debré, pardon. Je pensais à Jean-Louis Debré.
Non, Michel. Michel Delpech.
Oui, à sa manière aussi, oui.
Michel Denisot.
À sa manière aussi. C'est pas mon culte à moi. Hein.
D'accord, Michel Drucker.
Oui, bien sûr.
Michel Duchaussois.
Oui.
Michel Durafour.
Hélas pour le
jeu de mots.
Oui, parce que je ne sais pas dire grand-chose sur ce monsieur.
Nous non plus.
Je ne sais pas.
Michel Field.
Non.
Michel Fugain.
Oui.
Michel Foucault.
Le fils de Jean-Pierre. Michel Foucault, oui, bien sûr.
Alors, quand on t'a demandé quelle était ta chanson Madeleine de Proust, tu as dit, choisissez n'importe laquelle de Sheila.
Non,
mais si.
Je n'ai pas pu dire ça.
Mais tu as dit ça.
Non.
Et donc, tu as le choix. Tu as le choix. Alors, je te mets des extraits.
Non, c'est pas vrai.
Tu dis oui ou non. Madeleine de Proust a dit, ça te rappelle ton enfance, peut-être, les chansons de Sheila.
Si
il sait plus
voulez.
Ce qu'il a répondu. 4 titres au choix. Le premier.
Mais oui, mais oui. Les
tu peux me dire oui ou non.
Non.
Pas celle-là. Deuxième chanson.
Non.
Tu es sûr?
Oui.
Quand même.
Il va m'en rester deux, là.
Ouais, il te reste
il
deux.
Il en reste plus que deux.
Ça va devenir problématique.
Ça craint. Attention, la troisième.
J'ai juste peur de ne pas avoir le choix avec la dernière.
Si, la dernière, elle est mieux.
Allez, la dernière.
La dernière.
Allez, oui, allons-y avec ça.
Ok, alors c'est parti pour Bang Bang, mais depuis le début, la chanson Madeleine de Proust de Michel Onfray, qui vraiment, Anissa, nous montre une autre facette de son personnage.
Nous
Je me sens le cœur serré, bang bang. Je me souviens, bang bang. Tout me revient, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas.
Bang Bang, Sheila sur Europe 1, c'est le premier titre de ce Culture Culte aujourd'hui. Deux heures que l'on va passer avec
audacieux.
Michel Onfray.
Et un choix très audacieux de
sa
Michel.
Sa chanson Madeleine de Proust.
Mais ouais. J'ai vu qu'il avait un peu la larme à l'œil pendant cette chanson Bang Bang.
Bah oui, je pleure sur moi parce que je me suis trompé, j'ai cru que c'était Gang Bang. Mais en fait, c'est pas du tout ça, donc j'ai commis une erreur.
Europe 1. Vous écoutez Culture Culte et ça commence très bien aujourd'hui avec Michel Onfray. On va passer deux heures ensemble, restez avec nous, on va apprendre à découvrir Michel Onfray, il va tout nous dire, sans filtre, sur ses souvenirs, ses Madeleines de Proust. On va tourner les pages du livre de sa vie avec dans un instant le cinéma culte de Michel Onfray.
C'est l'été, on prend le temps sur Europe 1.
Culture Culte, votre émission de l'été, nouvelle émission de l'été, hein, pendant deux heures, de 16h à 18h.
Il y a d'autres émissions sur l'antenne, mais enfin disons que c'est la principale.
Elle est très bien, elle est très bien. De 16h à 18h, tous les samedis, tous les dimanches, nous faisons connaissance avec une personnalité qui pendant deux heures se dévoile complètement. Aujourd'hui, Michel Onfray, nous allons découvrir votre cinéma culte.
Moteur. Un deuxième, un troisième.
Film culte.
Coupé.
Alors, en film culte, c'est étonnant parce que j'aurais peut-être choisi la même chose. J'adore aussi. À chaque fois que tu tombes à la télé sur ce film, tu restes littéralement scotché un extrait.
T'as voulu faire l'école vétérinaire, t'as voulu faire ton droit, puis après t'as voulu faire les beaux-arts. Et finalement, tout ça se termine comme barman sur un bateau pour faire le trafic de drogue. T'as pas honte.
Tu comprends pas. Tu comprends rien.
Oh si, je comprends. Je comprends même très bien, les temps sont changés. Et moi, je t'interdis de faire toutes tes petites saloperies sur mes terres. Parce qu'ici, rien n'est changé.
Il y en avait pour 200 millions là-dedans. Maintenant, ils vont me tuer.
Personne ne te tuera, t'es chez moi.
Une sorte d'apologie de la France éternelle. Les pieds dans la glaise. C'est ça, ton idéal de film ?
Personne ne te tuera, t'es chez moi. C'est formidable, ça.
Ça, tu adores.
Ouais.
Mais tu as un côté comme ça, un peu bandit, finalement.
Non, je trouve assez formidable que quelqu'un dise « c'est moi le patriarche ». Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Donc, il peut t'arriver des choses, mais ici, il t'arrive à rien parce que t'es sous ma protection.
Est-ce que c'est un rôle auquel tu te prépares pour plus tard ? Tu es encore très jeune.
Mais pourquoi me dire ça ? Je suis déjà dans ce rôle. Non, je plaisante. Mais il y a plein de choses dans ce que vous avez choisi, là. Cette phrase du « t'as pas honte ». On n'est plus dans une civilisation de la honte aujourd'hui. On n'a honte de rien. Vraiment, il y a des gens qui sont terribles. Vous avez des gens qui sont au tribunal, ils ont détourné des fonds incroyables. Ils nous disent que détourner des fonds, c'est la pire des choses, etc. Enfin, si la honte devait tuer, ce serait l'hécatombe perpétuelle. Et voilà quelqu'un qui dit à son petit-fils, t'as voulu faire ceci, t'as voulu faire cela, t'as rien fait de tout ça. Aujourd'hui, t'es barman sur un bateau. Tu devrais avoir honte, quoi. C'est formidable. Moi, mon père... penser comme ça. Et de fait, l'idée de devoir avoir honte, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi dans ma formation et qui compte encore beaucoup. Il y a plein de choses que je ne ferai pas parce que je ne veux pas avoir honte. Et ce film dit beaucoup. Alors effectivement...
C'est un film sur les valeurs.
Oui, sur les valeurs et sur, je veux dire, la famille. Alors, j'ai pas fait d'enfant, j'ai perdu ma compagne d'un cancer. Il y avait Dorothée dans ma vie. Marie-Claude était au courant de l'existence de Dorothée. J'ai adopté ses enfants. Victoire vient de se marier, elle vient d'avoir un petit bébé qui s'appelle Augustin, qui est formidable. Et d'un seul coup, j'ai encore mieux compris la horse. Cette espèce de chef de bande, de chef de meute qui dit « je vous protège ». Et il vous arrivera rien. Je suis là pour vous protéger. Alors évidemment, c'est pas politiquement correct, c'est machiste, c'est phallocrate, c'est tout ce qu'on voudra, c'est pas gentil, c'est pas sympathique. Mais voilà, on voit la bagnole arriver du type qui dit « moi, j'ai de la cam à récupérer, et pépère, il va falloir que tu te calmes, etc. » Et l'autre qui sort son fusil, bing, voilà, c'est réglé, t'es mort. Bah, je trouve ça pas mal, quoi. C'était une époque où, de fait, il y avait quelques valeurs, on les faisait régner. Et comme ça reste du cinéma, c'est un peu comme lire une pièce de Racine.
On me signale que l'audience monte en ce moment en Corse terriblement à cause de ce que tu dis.
Oui, mais la Corse est bien pour ça aussi. Moi, j'aime bien la Corse pour ça, parce que de fait, il y a encore au moins un discours. Moi, j'ai été déçu par quelques Corses, mais au moins, il y a eu un discours. Il y a toujours un discours sur l'amitié, la fraternité, la virilité, la parole donnée. Et je trouve que cette île est belle pour ses valeurs qu'elle est capable de porter encore.
Gabin dans Le Chat.
Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir.
Oh, fous-moi la paix.
Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Je me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus.
C'est terrible.
C'est tellement violent comme phrase.
C'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui n'ont pas su fabriquer leur couple. Ça se fabrique un couple, ça se construit, et déjà en dehors de la cohabitation. Quand on aime quelqu'un, il ne faut pas partager la salle de bain, les toilettes, le lit et ces choses-là. Il faut partager les moments les plus sublimes. Et on voit bien tous les deux qu'ils ont un petit appartement, qu'ils le partagent tous les deux et qu'ils ne se supportent plus. Que lui, il a son chat, qu'il a les exemplaires du journal dans lequel il travaillait, et que cette femme qui a été trapéziste est tombée, qu'elle s'est fracturée la jambe, qu'elle boite. Et tout ça est terrible, parce que si on n'a pas su fabriquer un couple, au bout du compte, on se retrouve face à face et tout ça n'est pas terrible. Et le couple, c'est du sur-mesure. Je vous regarde. Parce que c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui l'on est. Sexuellement déjà. Quand vous parlez du Kama Sutra, les gens pensent aux images parce qu'ils préfèrent les livres d'images au texte. Mais le texte du Kama Sutra dit sache d'abord qui tu es sexuellement, corporellement, sensuellement. Quel est ton désir? À quoi ressemble-t-il? C'est pas, moi je suis pas lacanien, c'est pas du tout ma logique, mais il y a des désirs puissants, il y a des désirs pas très puissants. Donc déjà se connaître, connaître l'autre et savoir ce qu'on est prêt à faire l'un avec l'autre, l'un par l'autre, l'un pour l'autre. Donc c'est du sur-mesure. Ça veut dire effectivement qu'il y a des gens qui ont besoin de cohabitation d'autre part, il y a des gens qui ont besoin d'enfants d'autre part, il y a des gens qui ont besoin de liberté d'autre part, il y a des gens qui ont besoin de partage, d'autres qui ont besoin de silence, d'autres qui ont besoin de calme, d'autres qui ont besoin de secret.
Anissa va se replonger dans le Kama Sutra.
Absolument.
Elle a tout l'été.
Je vais tout bien lire.
Sur
toutes les images.
On va écouter...
Non mais on était en train de se dire des choses, vous nous gênez là.
Vous parlerez hors antenne, je sens qu'il y a quelque chose qui démarre, je ne veux pas être là.
Un costume sur mesure.
On va réécouter la bande-annonce de La Horse qui est signée Gainsbourg.
Thank you.
La bande originale du film La Horse par Gainsbourg sur Europe 1. La Horse, le film culte choisi aujourd'hui par Michel Onfray.
Europe 1.
Culture culte, c'est votre émission de l'été. Deux heures, presque en tête à tête avec un invité. Aujourd'hui, le philosophe et essayiste Michel Onfray va tout vous dire sur ses goûts, ses souvenirs, ses madeleines de Proust. C'est un amoureux des mots. Nous allons découvrir dans un instant quel est son dialogue de film culte. Culture culte, votre émission de l'été sur Europe 1, présentée par Carl Zéro, avec un invité qui se dévoile tous les week-ends pendant deux heures aujourd'hui. Michel Onfray nous en dit plus sur ses dialogues de films préférés.
Mais qu'est-ce que c'est
que cette
matière ?
C'est
clown. T'approchez pas !
Dialogue de film culte.
Le rôle du patriarche, tu l'évoquais quand tu parlais de La Horse, eh bien, il est de retour dans tes dialogues de films favoris. Ce sont uniquement les dialogues avec Jean Gabin.
Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations.
Salope pauvre.
Sais-tu ce que je vais leur donner ?
Non.
Du canaille pour millionnaire. L'aventure dans le confort. Des tables de guinguettes avec des champagnes de marque et des flanflans de bastringues joués par des virtuoses.
Tu vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
T'as de bons yeux, tu sais.
Oui, en fait, à part le dernier, tout le reste, c'est du Audiard et c'est une façon de voir les choses et de voir la vie.
Il y a plusieurs Gabins et il y a un même Gabin en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Gabins parce qu'il y a... Il y a un jeune Gabin, gueule d'amour, etc. Après ça, il y a un Gabin qui fait des choses. On a parfois l'impression que c'est un peu pour payer des impôts et que c'est pas toujours des choses qu'il aurait fallu faire. Mais il y a un Gabin que j'aime beaucoup. Moi, c'est celui qui il y a pas beaucoup d'images, hein, mais parle en dehors du cinéma. Il y a des journalistes, ils sont là, il leur répond, etc. Et il y a une espèce de magie, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer Michel Bouquet, par exemple, deux ou trois fois dans des circonstances un peu privées. C'était lors d'une exposition de mes amis Combas, Robert Combas, et il peut lire n'importe quoi, c'est-à-dire la fiche d'un médicament pour nous dire que les contre-indications, c'est la constipation, la diarrhée ou je ne sais quoi. Vous avez la voix de Michel Bouquet, et là, il y a la voix de Jean Gabin. Alors évidemment, la voix du jeune Jean Gabin n'est pas la même que le dernier, bien sûr, mais il reste cette incarnation, c'est le mot qui convient, c'est-à-dire cette façon de donner chair à une voix et faire de telle sorte que, quoi qu'il fasse, ça reste du Gabin. Et il y a un trajet chez ce type, quand même. Il s'engage pendant la guerre, enfin vraiment, il a un trajet formidable. Et j'aime tous ses rôles, et bien sûr que quand il y a du Audiard, c'est du cousu-main, c'est du fait sur mesure, mais personne ne parle comme ça. Jadis, ça a pu se trouver comme ça dans les bistrots. Moi, j'ai connu dans les bistrots l'espèce d'invention géniale.
Ah, tu as connu cette époque-là ?
Ah oui. Le populo parlait comme ça.
Mais il paraît qu'aujourd'hui, il n'y a plus.
Si.
Il y a encore.
Oui.
Tu entends encore des tirades à la Audiard.
J'ai un frère qui est un peu dans la souffrance d'existence, mais qui, à l'époque où il était joyeux et heureux, avait de ces inventions verbales, de cette espèce de gouaille-là. Et c'est Goulmont qui fait ça sur les brèves de comptoir, qui a des trucs formidables. C'est-à-dire, à Chambois, là, mon village natal, quand on va boire un café, qu'on voit des gens qui sont là, attablés, qui boivent un café, qui boivent un blanc, qui boivent une bière, et qui parlent de l'actualité, il y a un génie de la langue, il y a un génie de l'invention. Enfin, il y a des pages extraordinaires de Victor Hugo dans Les Misérables sur l'argot. Et je pense d'ailleurs que Céline est allée plonger là-dedans. C'est-à-dire que quand les Thénardier parlent, évidemment, ce sont des récits rebricolés par Victor Hugo, mais il y a un génie de la langue. Et ce génie de la langue, il a été porté par Gabin, d'abord parce qu'il vient de ce milieu-là, mais ensuite parce qu'Audiard lui faisait aussi parler ce langage-là, le langage
mais
de ce peuple.
À la différence de Gabin, Audiard était très cultivé. Et il mettait des petits repères, en fait, dans la bouche de Truand ou de Marlou. Oui. Il mettait des citations du XVIIe siècle qui étaient très étonnantes.
Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a eu un film, j'ai oublié le titre, qui est spécifiquement de Audiard, qui n'était pas bon. Enfin,
il en a fait trois, mais il y a...
Elle ne couche pas, elle ne baisse pas,
oui,
elle ne
oui,
fume,
oui, oui,
je
oui,
sais pas
oui,
quoi,
oui, oui,
chose, c'est pas bon du tout. Quoi.
C'est pas bon
que, Alors, il
moi, moi, je suis fan, ça me fait marrer.
Ah oui, ouais. C'est Audiard porté par des voix qui m'intéressent.
Ouais.
Et là, on voit que, encore, il y avait des grands acteurs.
Il y avait Jean Carmen dans les films.
Oui, oui. Donc,
non, c'est pas si mauvais.
Je dis une bêtise là-dessus. Mais ça marche pas. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il faut que le... Peut-être parce que, j'en sais rien, j'ai mis une hypothèse, mais peut-être parce que Audiard écrivait pour Gabin. C'est pas impossible qu'il ait eu en tête la voix de Gabin quand il écrivait choses.
Bien sûr. Pour La Scansion.
Oui, voilà. Ouais. Quoi.
On va l'entendre jeune. Je sais pas si tu connais cette chanson. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Par Jean Gabin en 1936.
Quand un Italien de Naples ou de Capri, le cœur est pris, veut faire à sa belle un petit brin de cour, il doit chaque jour, sous son balcon, la bouche en rond, chanter l'amour profond. Avec une mandoline. Au ciel d'Argentine, il paraît que les gauchos, au centre au chaud, ne parlent d'amour qu'à cheval sur un taureau, dans un tango. Moi, je ne suis pas si compliqué, et je dis pour m'expliquer à celle dont je suis piqué. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Hop là là, viens centre à la la, hop là là, c'est pas un gala, c'est à la hop, la l'air. Si ça te va, ça me va, serre-toi dans mes bras, et puis t'en fais pas, entre nous ça sera tout à la papa. Pas besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera, tendrement à la, hop là là. Certains ont besoin pour trouver leur bonheur à la hauteur. Le discours savant qu'ils prononcent à mi-voix, tremblant des mois. Aux riches il faut une belle auto pour aller rendu haut, voir le Porto dans le même verre. Pour promener ma gosse, je n'ai pas de 40 chevaux, je n'ai qu'un vélo. Je ne peux lui offrir ni champagne, ni gâteau, ni petit cadeau. Pour dessous de fleurs, je vois du bonheur dans ses beaux yeux rieurs, et je lui soupire en douceur. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Hop là là, viens centre à la la, hop là là, c'est pas un gala, c'est à la hop, la l'air. Si ça te va, ça me va, serre-toi dans mes bras, et puis t'en fais pas, entre nous ça sera tout à la papa. Pas besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera, tendrement à la, hop là là. Pas besoin de flafla, hop là là, pour se dire tout bas, hop là là, toute la vie comme ça, ça ferait bien mon affaire. Si je te plais petite, je t'invite, viens vite par là, chez moi tu verras comme on s'aimera, tendrement à la, hop là là.
Vous êtes bien sur Europe 1 avec Jean Gabin, jeune qui chante. Qu'est-ce que tu dis de ça ?
Oui, c'est vrai qu'on peut en douter. C'est rare qu'Europe 1 passe ce genre de tube issu de ma grotte personnelle.
Ben oui, mais c'est culture culte. Qu'est-ce
mais
que vous voulez ?
J'adore. Et d'ailleurs, Michel aussi.
Europe 1. Michel Onfray est l'invité de Carl Zéro jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous écoutez Culture Culte et pendant 2 heures, nous apprenons à découvrir le philosophe Michel Onfray grâce à ses souvenirs. Dans un instant, nous allons découvrir la séquence qui a marqué Michel Onfray à la télévision.
Europe 1, rythme votre été.
Culture Culte, votre émission de l'été où on prend le temps de découvrir une personnalité. Aujourd'hui, le philosophe
parfois
Michel Onfray.
Parfois 2 heures, parfois 2 ans, Anissa.
On aimerait que ça dure 2 ans. Michel Onfray nous parle de sa télé.
Rupture de circuit.
Allô, Zébra 2 à Zébra 3.
Cette générosité me laisse pantois.
Attention, vous vous mettez les pieds.
Moment de téléculte.
Michel Onfray, une question très personnelle. En 1969, année érotique, quel âge as-tu ?
10 ans.
Et c'est parce que tu as 10 ans que tu es fasciné par ce petit pas pour l'homme, mais ce grand pas pour l'humanité.
Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
À l'époque, les commentateurs et les traducteurs se donnaient assez peu de mal, il faut bien le dire. C'est quand même un événement extraordinaire et le mec, il dit « Ah, et maintenant, il descend de l'échelle ».
Vous rigolez, c'est très exactement ce qui se passe avec les télés en information continue aujourd'hui.
C'est vrai.
Il a parfaitement raison. Bah,
prenez BFM, CNews, etc. Vous avez des gens qui vous disent que les pompiers sont sur place. Or, les pompiers sont sur place, qu'ils sont en train de déplier l'échelle. Ils sont en train de déplier l'échelle. Que l'incendie est en train de se poursuivre. L'incendie se poursuit. Non, je pense que c'était pas plus malin à l'époque.
C'est hérité en fait de la bande dessinée. C'est comme dans Black et Mortimer. La case sert à expliquer ce qu'on voit sur l'image.
Oui, c'est là qu'est la mauvaise BD. Parce que normalement, on ne devrait pas pouvoir expliquer ce que raconte l'image.
Ne dis pas de mal de Black et Mortimer, c'est culte et j'adore. Tu aimes aussi.
J'ai lu il y a très longtemps et j'ai pas de souvenirs.
Il faut que tu fasses un retour vers Black et Mortimer. Mais revenons à la Lune. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le moment culte de télé pour toi?
Il y en a eu deux. C'est-à-dire mes parents étaient pauvres, il n'y avait pas d'argent à la maison et les voisins avaient offert leur télévision parce qu'ils avaient acheté une télévision plus petite. Et le premier moment, ça a été les Perses d'Echille à la télévision. On imagine un petit peu en prime time, comme on dit en français. Et ça, évidemment, mon père dit, c'est spécial. évidemment. Mais le truc dont je... Alors évidemment, je n'ai pas compris les Perses d'Echille. Évidemment, on n'a pas compris. Je n'ai pas compris. Mais le pas sur la Lune, c'est quand même un truc extravagant. C'est-à-dire que moi, la Lune, je la connaissais parce que dans le village, je regardais le ciel, l'étoile polaire. Mon père me racontait tout ça. Et je me disais, voilà, des hommes sont allés sur la Lune et on voit des images. Donc il y avait quelque chose d'éminemment magique. Et puis, quelque chose qui laissait croire que si en 69, ça, c'était possible, 20, 30 ans après, on aurait dû avoir des choses extraordinaires, extravagantes, et pas du tout. Quelque temps plus tard, on a un supersonique et aujourd'hui, on ne vole pas en supersonique, du moins en vol commercial. Donc
aujourd'hui, on compte ses points carbone.
On fait marche arrière surtout. On fait marche arrière surtout, c'est vrai. Et qu'est-ce qui est l'équivalent?
Ce qu'on nous a vendu pour l'an 2000, on n'a pas eu en tout cas.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de faire le passé du futur dans la science-fiction. C'est-à-dire regardez comment on imaginait le futur à cette époque-là. Et rien de ce qui a été prévu n'a eu lieu. En revanche, tout ce qui est advenu n'a pas été prévu. Personne ne prévoyait le téléphone portable. Pour l'an 2000, par exemple, l'idée que tout le monde ait un téléphone portable sur soi.
Aussi.
Internet, par exemple, personne. En revanche, tout le monde imaginait qu'on aurait des espèces d'hélicoptères personnels qui nous permettraient de circuler comme on circule avec la voiture. C'est pas le cas.
Et qu'on vivrait dans des sortes de pyjamas moulants en avalant des pastilles au lieu de déjeuner.
Ça, c'est un peu le cas, parce que c'est...
Ah, c'est vrai, j'avais pas vu comment t'étais habillé.
Non, mais les trucs moulants, c'est la... Comment ça s'appelait? C'est pas Corabanne, c'est tout...
Oui, mais alors ça, c'est années 70, voilà. C'est pas
non,
en 2000.
Mais, oui, non, mais...
C'était une prévision.
Et puis la nourriture, il faut regarder ce qu'on mange aujourd'hui. Parfois, on en a aujourd'hui des steaks qui sont faits sans viande.
Très juste. Et
on a même aujourd'hui du vin sans alcool. On a des produits auxquels il a vraiment fallu songer pour les produire, quand même, pour les fabriquer.
Alors, tu ne lisais pas Black et Mortimer, mais lisais-tu Tintin?
Non, parce que...
Parce que Tintin est le précurseur du fait d'aller sur la Lune.
Oui, mais une bande dessinée, ça coûte cher, c'est vite lu, et c'était pas possible. Il n'y avait pas de bibliothèque dans le village. Et il y avait à l'école municipale quelques livres, mais évidemment pas de bibliothèque. Il a fallu quand même Jacques Lang et les années 80 pour qu'on puisse imaginer que la bande dessinée, c'était quelque chose qui pouvait trouver sa place dans la culture. Avant, non, c'était un truc pour les enfants. Et il n'y avait pas de bande dessinée à la maison. S'il y avait chez ma marraine Fripounet et Marisette, je crois bien...
Qui t'a durablement marqué?
Ça me revient là, l'esprit. Je pense pas que ça m'ait durablement marqué.
Est-ce qu'on peut considérer qu'une partie de ton œuvre est inspirée directement par Fripounet et Marisette?
Plutôt Marisette, je dirais.
Alors, pour évoquer la Lune, je te propose de découvrir, parce que je ne suis pas sûr que tu connaisses, Big Flo et Oli. Ça te dit quelque chose?
Non.
C'est un tube culte de la playlist d'Europe 1. Écoute bien.
Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient impossible.
Un jour je serai vieux, j'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je rattrape pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever. Et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble. Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai fou, j'aurai fait le tour de la terre. J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves. Un jour je serai moi, j'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent, donc au final je suis comme les autres. Un jour je serai sage, j'aurais fini de faire le con. J'irai voir mes ennemis pour tous leur demander pardon. Un jour je serai mort, j'aurai fait le tour de mon âge. Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire, j'aurai réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, un jour je serai moi-même, j'aurai trouvé le sourire, j'aurai réglé mes problèmes. J'en ai marre de courir, un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
Big Flo et Oli sur Europe 1 sur la Lune pour évoquer le souvenir télé de Michel Onfray, les premiers pas de l'homme sur la Lune. D'ailleurs, nous fêtons cet été les 50 ans de ses premiers pas sur la Lune. Et il y a une série à découvrir, 3h56. Je vous conseille d'aller écouter ça sur Europe1.fr. C'est un podcast qui vous fait revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune.
Europe 1.
Culture Culte, c'est votre émission de l'été avec Carl Zéro et son invité. Aujourd'hui, le philosophe Michel Onfray se confie, partage avec vous tous ses souvenirs d'enfance. Alors, qu'est-ce qu'il écoutait, Michel Onfray, à la radio? J'ai comme l'impression que ça se passait sur Europe 1. Vous écoutez Carl Zéro sur Europe 1 pendant 2 heures jusqu'à 18h. Carl reçoit aujourd'hui Michel Onfray. Alors on parle de tout avec vous Michel Onfray. On a parlé de votre cinéma, de vos dialogues de films, de votre téléculte. On va maintenant brancher la radio. Vous êtes bien
sur Europe 1, vous êtes bien. Moment de radio culte. Et en remplissant, mon cher Michel, ton questionnaire culte, il y a un moment où tu t'es assoupi. C'est quand il était question de radio. J'ai donc décidé de répondre à ta place et j'ai choisi ceci, Europe 1.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
Ça, c'est l'ouverture d'antenne. Ça se passait en 1955, donc tu ne l'as pas entendu. Il n'y avait pas la radio chez toi ?
Si, mais j'aurais pu répondre Europe 1 parce que c'était, mon père était très fidèle en tout, c'est-à-dire que...
Et il aimait Europe 1.
Et c'était sa radio.
Ah, alors donc
on écoutait Europe 1.
J'ai visé juste. Bon, attention, le 10 mai 81, qu'est-ce qui se passait sur Europe 1 ?
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République.
El Kabach et Moujotte qui ne croient pas eux-mêmes aux résultats, qui sont bien emmerdés. Ils comprennent qu'ils vont faire partie de la charrette. Tu te souviens de ce moment-là?
Ah oui, absolument. Oui, oui.
Alors tu avais voté quoi d'ailleurs à cette élection?
Alors au premier tour, j'avais voté Huguette Bouchardeau.
Huguette Bouchardeau.
Parti socialiste unifié.
Pour son physique alors?
Non, mais moi je votais pour des idées. Et bien sûr. Du fait, quand Mitterrand, ça ne m'a pas gêné de voter pour lui au second tour. Il avait des idées de gauche. Hein, donc,
non, il faisait semblant.
Ah bah,
il faisait semblant,
après,
tu le sais bien.
Non, j'avais 20 ans. Enfin, j'avais,
tu t'en rendais pas compte?
Non, pas du tout. Et à l'époque, le père de Marie-Claude me disait « Oh là là, tu verras, tu vas être déçu. »
Tu vas déchanter.
Et je me disais « Les vieux, ils font chier, ils sont jamais contents, ils râlent tout le temps, etc. » Et puis de fait, je manquais de culture, c'est évident. Et après, on découvre tout, quoi. On découvre la Francisque, on découvre l'Algérie, on découvre le faux attentat de l'Observatoire. Et puis on se dit « Bah évidemment, il était sage et il avait raison de me dire ce qu'il me disait. »
Ça ne l'empêche pas, Mitterrand, de triompher au micro d'Europe 1.
Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat.
Ça se voit plus dans les archives de télé, mais ce soir-là, quand il fait ce discours, il a l'œil fou. Il s'y attendait pas, en fait.
Oh si, je pense. Moi, je me souviens très bien d'avoir suivi tout ça très tôt. Moi, je défendais le Parti Socialiste quand j'avais 14-15 ans, mais pas le Parti Communiste parce qu'il était trop pro-soviétique. Et je me souviens très bien, quand j'allais à la fac, j'avais le père d'un copain qui me conduisait. Et à l'époque, il y avait, je ne sais plus, des cantonales, des législatives, probablement des cantonales. On pensait que la gauche allait gagner tout ça. Oui, c'était les cantonales, puisque j'avais soutenu un instituteur qui s'appelle Émile Legris, que j'aime beaucoup, parce que c'est lui qui m'a appris la gauche, d'une certaine manière. Et on savait bien que ça montait doucement et que le tour de Mitterrand arriverait un jour. Mais là, dans ce que vous avez trouvé, c'est formidable, l'espèce de discours, on peut presque imaginer néo-pétiniste, les forces de la jeunesse, l'énergie de la nation. Enfin, c'est quand même incroyable quand on entend ce vocabulaire chez un type qui se prétendait un homme de gauche, quoi.
Pour évoquer la radio culte de ton papa et la tienne, j'espère, Michel, j'ai choisi ce tube de Jean-Yann. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a
souvenir de 1972 sur Europe 1, tout le monde il est beau, Jean-Yann, pour les souvenirs de Michel Onfray, des souvenirs radio signés Europe 1, évidemment.
Europe 1.
Culture Culte, votre émission de l'été avec jusqu'à 18h, Michel Onfray qui nous dévoile tout. Alors Michel Onfray, on a parlé beaucoup de politique dans vos moments de radio signés Europe 1. On va continuer à parler politique avec vos moments cultes d'un grand homme.
Souriez, c'est l'été. Et vous êtes bien sur Europe 1.
En vue du décollage, veuillez régler votre poste sur Europe 1. Merci de votre attention.
Vous connaissez ses écrits, mais grâce à Culture Culte, votre émission de l'été, vous pourrez dire que vous connaissez parfaitement Michel Onfray, parce qu'à 18h, on aura tout su de vous, Michel Onfray. Il est temps maintenant de découvrir votre moment politique culte.
What do you want? Me to go back to my plane.
Je vous demande de vous arrêter.
Séquence politique culte.
Ça va même au-delà de la séquence politique, c'est le personnage politique culte. Alors tu es passé de anard de gauche à anard de droite, et alors ton goût là est carrément à droite, c'est le général de Gaulle, incroyable.
Pas du tout, ah non, alors je suis pas du tout d'accord. Le général de Gaulle n'a jamais été un homme de droite, je le dis depuis très longtemps d'ailleurs. J'ai même dit sous forme de boutade, mais je suis en train d'écrire un livre qui va démontrer le contraire. Je fais un portrait croisé Mitterrand-De Gaulle, que oui. Mitterrand était un homme de droite soutenu par la gauche, et De Gaulle un homme de gauche soutenu par la droite. C'est pas si faux que ça. Le général de Gaulle n'a jamais aimé ce qu'il faisait la droite, c'est-à-dire l'affectation du catholicisme. Il priait, mais secrètement et discrètement, c'est oui. Une affaire privée. Il n'aimait pas la bourgeoisie conservatrice, il n'aimait pas l'argent, il n'aimait pas le capital et le capitalisme. La théorie de la participation, c'est quand même une grande idée de gauche, tout de même. Il y a cette idée de l'indépendance et de la souveraineté, ça reste quand même quelque chose qui est au-delà des partis. Et puis c'est un caractère, un tempérament, enfin un vrai personnage. Moi je dirais même que c'est un Nietzschéen. Quand il est en Irlande, par exemple, j'ai eu la chance de connaître un peu l'amiral Floic avant qu'il ne disparaisse, plusieurs années tout de même. Et l'amiral qui avait organisé le voyage en Irlande me disait que sur le registre à l'hôtel, le général de Gaulle avait écrit une phrase de Nietzsche. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'il démarre avec Bergson, il continue avec Nietzsche. C'est un personnage secret et je trouve que ce n'est pas forcément contradictoire avec la gauche. Je vous rappelle que André Malraux, Romain Gary, Maurice Clavel, par exemple, sont des gens qui soutenaient le général de Gaulle et qui étaient de gauche tout de même, et qu'il y a eu un courant gaulliste de gauche, Capitan, Vallon, etc.
Alors on va réécouter les meilleures boutades du général et tu vas nous expliquer à quel point elles sont de gauche. Et on commence par ceci.
Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Bon, bah là, c'est évidemment de gauche.
Ah, c'est compliqué cette phrase, parce que c'est pas la phrase la plus géniale et la plus défendable. On sait très bien que Paris libéré par les Français, ça marche pas, quoi. C'est le début d'une mythologie un peu dangereuse. C'est-à-dire que le général de Gaulle estimait qu'effectivement, la France était lui, et que la France était à Londres, et que Pétain n'ayant jamais existé, en ce sens, il y avait une totale continuité. Il fallait aussi effacer les deux années de collaboration des communistes avec le pacte germano-soviétique. Les communistes oublient aujourd'hui de dire qu'avant de devenir résistants, ils ont collaboré avec Adolf Hitler pendant 2 ans, et que ces 2 années ont fait qu'il n'y a pas un poète, il n'y a pas un Aragon, pas un Éluard, pas etc., qui ait été résistant avant que Hitler n'envahisse l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa et fasse tomber le pacte germano-soviétique. Et quand De Gaulle prend les affaires en main, il lui faut créer une mythologie. Et la mythologie, c'est que la France de toujours, elle a résisté, que les communistes ont fait partie de la résistance. Donc on oublie tous les poux dans la tête de tout le monde, parce que si on commence à les chercher chez les universitaires, les journalistes, les écrivains, les philosophes, le comportement de tel ou tel pendant la guerre, ça va pas être formidable.
Embrassons-nous, Folleville. Deuxième extrait.
Est-ce qu'on comprend qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Formidable. C'est formidable parce que c'est une conférence de presse. Aujourd'hui, les conférences de presse, elles sont préparées par 50 personnes pendant 10 jours avant. On a des journalistes qui sont des copains, des coquins avec lesquels on déjeune. On fait passer les questions, on connaît les réponses. Enfin, tout est fabriqué, préfabriqué. Il y a presque d'ailleurs un prompteur pour répondre aux questions des journalistes. Bonjour, je suis monsieur qui travaille à Libération. Bonjour, je suis monsieur qui travaille à l'Obs. Bonjour. Bon, voilà, quoi, on sait très bien que... Alors qu'il y a chez De Gaulle une véritable improvisation. Et qu'il a un sens de l'humour qui est extraordinaire. C'est souvent un humour de carabin, c'est un humour de militaire plutôt. Oui. Et puis une répartie extraordinaire. Et là, quand il dit « bon d'accord, je passe pour un fasciste aux yeux des communistes qui eux défendent tous les dictateurs de la planète, mais comment imaginez-vous que je puisse être un dictateur? Si j'avais dû l'être, je l'aurais été avant l'âge que j'ai aujourd'hui. » Et c'est formidable cette façon de retourner le tout avec cette plaisanterie.
« Il est tout à fait naturel !» que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire, comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages.
Bah, peut pas mieux dire, hein, décolonialiste, quoi. Voilà quelqu'un qui nous dit on peut regretter l'Empire, mais ça sert à rien. C'est comme regretter la lampe à huile. Et qui regretterait la lampe à huile à l'époque de l'électricité? Donc de dire du général de Gaulle qu'il était un colonisateur alors que c'était l'époque où Mitterrand, lui, justement, défendait l'Algérie française. Et il l'a défendu longtemps, longuement.
Et violemment.
Et violemment. Et jusqu'à, d'ailleurs, réhabiliter les généraux Fellon quand il était président de la République. Non, il y a chez le général de Gaulle cette façon de comprendre l'histoire. C'est-à-dire quand les gens disent « je vous ai compris, c'est une trahison », etc. Enfin, il faut comprendre que c'est un pragmatique, le général de Gaulle. Et surtout, lire ce que dit Alain Perfit dans ses 3 gros volumes qui rapportent les dits de Gaulle. Et de Gaulle dit à un moment donné « mais si l'Algérie devient totalement française et qu'on donne une égalité aux citoyens algériens avec les citoyens français, on va avoir 40 millions, dans 10 ou 15 ans, 40 millions d'Algériens qui pourront venir sans problème sur l'Hexagone, et c'en est fini de la France. Colomber les deux églises s'appellera Colomber les deux mosquées. » Et la décolonisation, il l'a fait pour préserver l'identité culturelle de la France, en plus du fait que ça lui permet, cet argent économisé, d'engager un programme nucléaire qui lui permet de dire aussi bien non à l'Union soviétique que de dire non aux États-Unis. Donc il y a une espèce de vision décolonisatrice qui est assez lucide, et ça en fait effectivement un homme de gauche.
Tu racontes si bien de Gaulle qu'on n'a plus le temps de continuer. Il restait encore 200 phrases, mais on le fera la prochaine fois que tu reviens, c'est-à-dire très bientôt. Alors attention, au chapitre chansons politiques, tu as choisi La montagne de Jean Ferrat. En un mot, pourquoi ?
Pas pour Jean Ferrat, mais pour le texte. Je n'aime pas beaucoup le philo-communisme de Jean Ferrat qui nous chante Ma France et qui fait l'éloge de Robespierre. Moi, je suis un anti-robespierriste absolu. Mais parce que c'est une chanson qui raconte ce qui s'est passé avec la fin des campagnes. Gaston Roupnel a écrit un livre là-dessus. Mon père, qui était ouvrier agricole, l'était comme il aurait pu l'être à l'époque de Virgile. C'est-à-dire que pendant des siècles, les paysans ont paysanné, je dirais, ouais, exactement de la même manière. Et là, d'un seul coup, ils descendent dans les vignes, ils veulent du formica et du ciné. Et puis, c'est fini la montagne, c'est fini la campagne. Et ben voilà, on a une actualité qui fait qu'aujourd'hui, on a des vaches avec des hublots, on a des intoxications alimentaires avec des produits qui sont faits avec de la dioxine. Enfin, on se dit, mais effectivement, cette chanson, elle était prémonitoire sur la fin des paysans, la fin de la paysannerie, sur l'exode rural. On a eu les gilets jaunes. Enfin, tout ça est contenu dans cette chanson.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. longtemps que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver?
La montagne, Jean Ferrat sur Europe 1, un nouveau choix musical de Michel Onfray. Son culture culte, c'est maintenant. Et c'était la chanson politique du jour. On continue à découvrir Michel Onfray jusqu'à 18h.
Europe 1.
La suite de l'émission, c'est juste après les infos. Karl, on va faire un point sur l'actualité à 17h.
Il
et puis,
temps.
On va retrouver Michel Onfray dans un instant, votre invité. Et il va nous parler de son personnage culte. Alors, homme réel, homme de fiction, vous allez le découvrir dans un instant. Culture culte, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est votre émission de l'été. Pendant 2 heures, tous les samedis, tous les dimanches, de 16h à 18h, Karl Zéro reçoit un invité qui vous dévoile tous ses souvenirs, c'est Madeleine de Proust. Une émission confidence qui nous rappelle à tous bien des souvenirs. Et aujourd'hui, vous recevez Michel Onfray.
Bonjour, c'est moi Casimir.
Personnage culte.
Non, ça n'est pas du tout Casimir. On remarque après Sheila tout à l'heure, tout est possible. Mais ça n'est pas Casimir, le personnage culte de Michel Onfray. Si vous avez pris l'émission depuis le début, vous le savez, et on y revient, c'est Jean Gabin. D'ailleurs, ce Jean Gabin de la Horse, c'est un petit peu le Jean Ferrat de la montagne.
Oui,
c'est,
oui, oui.
Ça revient toujours à la même chose,
oui,
finalement.
Oui, oui, oui.
C'est une France disparue.
Ben, vous avez raison, j'étais en train de me dire que j'étais un vieux con, quoi. Ça se voit avec mes goûts, mes choix.
Je suis très embêté pour vous.
On a le même âge.
Et à peu près les mêmes goûts, en plus. Et oui, les vieux cons ont pris l'antenne sur Europe 1. Alors, on va écouter Jean Gabin, il nous parle de son métier d'acteur.
Ah, moi, je pense que c'est un magnifique métier, quoi. C'est un très beau métier. Moi, je remercie ce métier-là, moi, personnellement. J'y dois tout. Ceci dit... J'aime bien le faire bien, mais je suis pas un dingue. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas un dingue de cinéma. Si je tourne plus, ça me manquera pas. Ça me manquera pas. Mais je pense que la première des choses, surtout, c'est d'en donner pour son argent, comme on dit. Et il faut le servir pour le public. Je dis pour mon public, parce que ça, c'est couillon de dire mon public, mon public. Moi, je parle le public. Et j'estime qu'un gars qui paye une place, qui arrive dans un fauteuil, il vient pour voir, comme on dit en français, de la belle ouvrage. Ben, on essaye de faire quelque chose de bien. Alors il faut le servir, ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit dingue de ce métier-là. Moi, je n'ai jamais été.
Voilà bien une valeur populaire comme tu les évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, peu importe le métier qu'il fait, c'est l'amour du travail bien fait. Encore un truc qui a disparu.
Oui, c'est formidable. D'abord, on connaît cette histoire du après Mozart, le silence c'est toujours du Mozart. Là, on a des silences de Gabin, c'est du Gabin aussi. C'est-à-dire que quand il a des pauses comme ça, on se dit, on l'entend encore. Enfin, c'est formidable. Ça, c'est pour la musique de Gabin, je dirais. Mais sur ce qu'il dit, bien sûr, c'est formidable cette façon de. D'abord de dire qu'il faut aimer le travail bien fait. Maintenant, il faut dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le travail bien fait parce qu'on leur demande de faire du travail mal fait. C'est aussi la faute de ceux qui commanditent un travail dégueulasse.
Ça, c'est vrai aussi, Yannis.
Comment, quand vous travaillez... Je ne parle pas du vôtre.
Arrêtez de me regarder, Karl.
Non, mais les gens qui travaillent sur des plateformes qui, toute la journée, par exemple, vous reçoivent parce que vous avez un problème avec votre téléphone portable, comment pouvez-vous aimer le travail bien fait? Alors si, bien sûr, vous pouvez honorer la parole, les choses, enfin bon. Mais c'est difficile aujourd'hui, quand on sous-paye les gens, quand on les exploite, de leur demander en plus d'aimer le travail qu'ils font. Je comprends que plein de gens soient fâchés avec le travail parce qu'on ne les a pas aidés à se réconcilier, ni même par du symbolique, ni même par des salaires dignes de ce nom, ni même par une sécurité de l'emploi ou ce genre de choses. Mais il dit quelque chose d'important, c'est la dialectique servir, se servir. Et je pense que nous sommes dans une civilisation où tout le monde se sert et personne ne sert. Et de fait, il faut servir sa profession, il faut servir sa famille, les gens qu'on aime, il faut servir sa chérie, son amoureux, son amoureuse, il faut servir ses enfants, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Il faut servir son pays, il faut servir sa mémoire, il faut servir sa littérature, il faut servir tout ça, mais pas sans servir. Et de fait, la dialectique du servir sans servir, elle s'est inversée. Il y a eu une époque où il fallait servir la République et puis pas se servir soi du tout,
c'était pas forcément bien. Aujourd'hui, c'est il faut se servir et se gaver et servir rien du tout et pas du tout. C'est pas mieux non plus. Il faut trouver une bonne dialectique entre effectivement servir un certain nombre de choses. Et on voit bien d'ailleurs quand un policier, un militaire se met à mourir parce que Beltrame, par exemple, ou un garçon des commandos, combien les gens ont de l'admiration pour quelqu'un qui a servi et qui s'est pas servi, mais qui a vraiment servi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours à fleur de peau chez les Français. Il suffirait de pas grand-chose pour leur redonner le goût du service, des choses bien faites et des choses bien dites, ou d'un certain nombre d'autres choses. La nation, la République, la communauté, sans qu'on soit dans le communautarisme.
On retourne à Jean Gabin. Il nous parle de ses débuts et comment il est arrivé au cinéma.
J'ai débuté dans une opérette en 30, quand, à l'avènement du parlant, quoi. Et je pensais pas du tout un jour de devenir un acteur dramatique. Ça s'est fait comme ça, parce qu'il y a un garçon à qui je dois beaucoup, qui est mort, hélas, maintenant, qui s'appelait Pierre Geoffroy, qui était directeur de production, et ils avaient besoin d'un jeune gars qui puisse être léger et peut-être dramatique. Alors, il avait pensé à moi, puis c'est comme ça que j'ai joué le rôle, et puis voilà, puis ça s'est enchaîné.
Alors, c'est le destin ou le hasard ?
C'est un mélange. Je crois que si des gens sont faits pour être génial dans un domaine, si le domaine n'est pas la peinture, ça pourrait être la sculpture, ou ça pourrait être le syndicalisme, ça pourrait être la politique, ou j'en sais rien. Enfin, il y a des gens qui sont porteurs d'une énergie. Lui, effectivement, il a démarré dans le cabaret. Après ça, il y a eu un changement. Le cinéma est devenu parlant. Ça a été un peu problématique. Il y a eu la guerre. Pendant que beaucoup étaient planqués, lui, il est allé au risque de perdre sa carrière. Puis après, il est revenu. Ça a été difficile à nouveau. Il avait changé de style, de registre, les airs roulés, c'était plus possible, c'était plus pensable. Les jeunes garçons, les jeunes premiers, les tas de beaux yeux, tu sais, tout ça, c'était fini, ça n'était plus possible ou pensable.
C'était Gérard Philippe, là.
Oui, il fallait passer à autre chose, et ça n'a pas toujours été facile pour lui. Mais on a vu quelle carrière il a pu mener, et ça reste quand même une carrière en ligne droite.
Et ça a même inspiré MC Jean Gabin, son fils spirituel, avec sa célèbre chanson « Je t'emmerde ».
Certains m'appellent le nettoyeur. Mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frelots avant de rentrer dans ce bisgot, alors pas besoin de poteau. Je t'emmerde et je t'emmerde. Et pour commencer, gratiner ceux qui ne soient disant font danser. C'est ta cloche, ou bien X en nous pourrait pas becter. Te glisserai leur langue dans ta fente pour faire des mixtapes Made in France. Et quand tu vas guincher, remets tes guibolles rincées. Eh, y a plus rien de français. Alors monsieur Lydia, la one again, change de scud. Et Pierre et toi, tu connais l'underground, car t'es plutôt fashion. Alors action, je t'emmerde et je t'emmerde. Débarqué avec Frollo, mais pas en mono, mais en bikini avec Solo. Ton pater, un tas de trucs, ce qui t'évite le réfugié avec les Schmitt. Des squats, on a Claudeur, et rien d'un assassin. En France dorée, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chouffe-toi dans une glace, car ce que tu vois, c'est dégueulasse. Eh Renoir, oups, t'as rasé tes tifs. Babylone, je t'emmerde, et je t'emmerde. Quant au narvalo de la nation, leader que je suis au parleur. Sachez que le hip-hop, c'est pas seulement faire des gribouillis sur un muret, et se faire calter par les cacous de l'apéro comme un furet. FMP, fanfaron managé par une pute. Encore un coup de foireux comme le BOSS. Boulard organisé qui siffle ses sniffs. Authentique sur Paplard, alors que ces deux-là voulaient se rentrer dans l'art. Eh, tout n'est pas si facile. Et qu'est-ce que t'attends pour le foutre feu et te foutre feu? Critique la soupe, et faut les croutons qui vont avec. Eh, et même s'il y en a qu'un qui sort des briques. Et l'auto, c'est volant des 30 piges pour vendre du shit. C'est arrivé près de chez toi. Ouais, ma gueule, carrément sous ton nez. L'argent pourrit les gens, c'est plus un sentiment. Bien sûr, je vous emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Et je t'emmerde. Joue les cakes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Joue les braves, joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Joue les cakes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Joue les braves, joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Oh, si, si, good boy. Faut qu'ils prennent une barre pour qu'ils comprennent. Grande saucisse, parle si bien de ses sosies dans ses chansons. Sgeek, seuf, et pourtant il prend du côté pile. Y'en a qui ont l'emballage et pas le contenu. Est-ce qu'il gigote dans ton calcif aussi chétif que chez Garbit? Je t'emmerde. Honneur au dinde, l'amigale. Non, la tronchonneuse. Avant de donner des leçons, regarde avec qui t'as fait un jeton. Mais si, et si seulement t'avais pas baissé ton froc pour en arriver là. Eh ouais, c'est vrai, ce jour-là t'en avais pas. Et si, avec des cils, malheureusement je coupe du bois. Je t'emmerde. 12 et pas un cerveau, fallait qu'on revienne. Quitte à collaborer avec l'autre facho, j'en place une spéciale pour toi, Père Paul Jaco. C'est pas santé, mais c'est bien ratonné. Car tatoué, tu l'es encore, et v'là l'envers du décor. Elle compte du racisme, c'est tringué ce qui reboot. J't'emmerde, j't'encule, j't'emmerde. Rappelle-toi le mélancolique qui fait dans la purée mousseline. Car pour un moslem, t'aurais dû déjà changer de blase. Ça sent le gaz, dans la akbar. Et la première qualité d'un moslem, c'est d'être homme. Et tu l'es pas. Et sache que la religion n'est pas un sprint, mais une course de fond. Alors pense à ceux qui pratiquent depuis 20 ou 40 ans et qui n'en font pas tout un boucan. Remarque, ils l'ont marqué, tu ne seras pas une icône. Et si seul l'aide suprême juge, alors la sky roulette, sacrilège. Bismillah, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Joue les cakes, joue les one again, joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre. Joue les braves, joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Joue les cakes, joue les one again.
C'est encore Europe 1, vous êtes bien, ne changez pas. Vous écoutez Europe 1, c'est Culture Culte et c'est MC Jean Gabin, le rappeur que vous venez d'entendre avec le titre Je t'emmerde, parce que le personnage culte pour Michel Onfray aujourd'hui, c'est Jean Gabin.
Europe 1.
Michel Onfray, votre invité, Carl Zéro, jusqu'à 18h. Alors, on a beaucoup
mais
parlé.
Mais je le sais.
Politique. C'est pour
je
les auditeurs.
Je l'ai pas oublié entre temps.
Pour les auditeurs. On a beaucoup parlé politique, télé, radio, cinéma. On va s'intéresser à la chanson maintenant. Quelle est la chanson culte dont le succès dépasse l'entendement pour Michel Onfray? On va la découvrir.
Ah, le choc des cultures, là. Je sens un choc des cultures.
Ouais, vous allez pas être déçus.
C'est l'été. On prend le temps sur Europe 1.
Culture Culte, votre émission de l'été où on prend le temps de découvrir une personnalité grâce à ses goûts, grâce à ses souvenirs. Aujourd'hui, c'est le livre de la vie de Michel Onfray que nous ouvrons, que nous lisons tranquillement tous ensemble jusqu'à 18h avec Carl Zéro.
Si nous parlions à tour de rôle, à vous d'abord.
Culture Culte sur Europe 1.
Là, c'est sûr, on va parler à tour de rôle, Michel. Car la chanson culte dont le succès dépasse, selon toi, l'entendement, c'est ceci.
C'est un remix, en plus.
Très sympa, que j'ai fait avec mon orgue Farfisa, cette nuit, pour séduire Michel.
La danse des canards, évidemment.
Alors, Michel, là... Tu vois le problème qu'on a, on est sur Europe 1 et il faut qu'on tienne environ 4 minutes 30 en parlant tous les deux de la danse des canards et on va le faire. Michel Onfray, la danse des canards.
Oui.
Il n'y a pas de question, trois petits points. Michel Onfray, la
oui,
danse
bah,
des canards.
C'est quand même assez sidérant que ce soit un succès planétaire et que dans tous les mariages, dans toutes les fêtes, on ait eu droit à ce genre de choses. Plus
toi
des
même.
Gens qui se trémoussent, qui s'accroupissent.
Tu as dansé sur la danse
non,
des canards.
Jamais de la vie, non.
J'ai là une vidéo.
Oh, alors ça, j'ai aucune crainte.
J'ai une vidéo.
J'ai aucune
que
crainte.
Nous allons mettre tout de suite sur le site europe1.fr.
Non, je n'ai pas de vidéo.
Ah, non. Non, mais jamais de ma vie, plutôt mourir. Mais non. Il y en a d'autres aussi, je ne sais plus.
Enfin, la chenille Patrick peut-être Sébastien. Aussi.
La chenille,
voilà, la chenille. Oui. Les sardines.
Patrick
les sardines
Sébastien
de Patrick
a chanté
Sébastien.
Des trucs comme ça qui sont assez terribles. Et ce sont des succès populaires qui, effectivement, pour moi, dépassent mon entendement, on dirait.
Pour ceux qui nous rejoignent, un extrait de la danse des canards, mais à l'accordéon cette fois-ci.
Mais vous savez qu'il y a des personnes pour qui ce morceau est culte.
Il y a des personnes, en tout cas, pour qui c'est une madeleine.
C'est ça.
Des tas de trucs leur reviennent. Par exemple, vous, Anissa, qu'est-ce que vous avez fait sur la danse des canards?
De nombreux mariages, baptêmes et autres fêtes de famille.
Mais Michel, qu'est-ce qu'on peut dire de chansons populaires comme ça? Est-ce qu'elles sont le reflet d'une époque? Celle-là, elle a été lancée au début des années 80. Est-ce que c'était encore le temps du bonheur?
Non, parce que je pense que ça marche encore dans toutes les occasions de fête, parce que c'est justement l'occasion de fête qui est toujours un peu régressive, la fête. Alors d'abord, les gens boivent un coup, puis deux coups, puis trois coups, parce que c'est jamais vraiment au début de la fête que ça commence. Et ils sont dans un état tel que ça reste quand même très régressif. Et puis, il y a le fait qu'on a le tonton, la tante, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, etc. Et que bon, et tout ça transcende un peu les classes sociales. Il s'agit de faire de telle sorte que tout le monde soit capable de danser une même chose, d'avoir une chorégraphie extrêmement simpliste. On bat des ailes et on se descend avec les mains sur les hanches et on remonte en faisant coin-coin. Et tout le monde est capable de faire ça. Le type qui est patron du CAC 40, l'agrégé de philo, l'agriculteur, le notaire, le gamin qui a 7 ou 8 ans. Et c'est une espèce de facteur de cohésion sociale à bas coût, à bas bruit.
Mais ça fait un peu peur, parce que ça veut dire qu'on ne se réunit finalement que sur les thèmes les plus cons du monde.
Ben, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est plus facile que de dire, je vais vous faire un cours sur la critique de la raison pure chez Kant, où on va faire fuir tout le monde, et voilà. Donc on a des mélodies extrêmement simples, on a trois notes, on n'a pas de paroles, on a une chorégraphie un peu régressive, parce qu'on joue le canard, on s'assied...
Son cerveau sur pause, en fait, pendant ces moments-là, c'est ça un
oui,
peu
mais
le principe
mais c'est quand même assez fréquent, les cerveaux sur pause, donc on pourrait aussi éviter d'en faire une espèce de cérémonie particulière, c'est déjà tellement fréquent.
C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont la danse des canards en permanence dans leur tête. On écoute justement la célèbre version, là c'est le disque de Jean-Jacques Lionel. La danse des canards, vous pouvez danser
en entier carrément.
Sauf en voiture.
Ok, on y va.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames
et font coin coin.
Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin
en son coin coin.
À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain
et des coin coin.
Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux,
redressez-vous.
C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain
dans tous les coins.
Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain.
Coin, 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 coin.
Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Liez les genoux, c'est bien.
Et faites coin, coin.
Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin
faire des coin, coin.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secoue le bas des reins
et font coin coin.
À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain
et des coin coin.
C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terribilos comme tout,
c'est dingue, c'est tout.
Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux,
redressez-vous.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secoue le bas des reins
et font coin coin.
Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin
en son coin coin.
C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain
dans tous les coins.
Ne soyez pas en retard car la danse des canards c'est le tube de demain.
Coin 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 coin.
La danse des canards en entier, ouais, c'est Europe 1, c'est comme ça, ça se passe cet été, c'est Culture Culte que vous écoutez.
Oui, mais il faut vraiment qu'on reçoive Michel Onfray pour écouter la danse des canards.
Avec
oui.
Carl Zéro et Michel Onfray.
Europe 1.
Jusqu'à 18h, vous écoutez Culture Culte, une émission où l'on découvre des personnalités. Aujourd'hui, Michel Onfray, alors
on
là je vous rassure,
surprises.
On oublie, on oublie la danse des canards. Et là, on va revenir dans un domaine dans lequel vous êtes très à l'aise.
Pourquoi
on va aller dans votre...
Vous êtes très à l'aise avec la danse des canards.
Oui, mais on n'a pas vu la chorégraphie. On n'a pas vu la chorégraphie. On va aller dans votre bibliothèque, Michel Onfray. Vous allez nous parler de votre vie livre culte. A tout de suite.
Tout l'été, Europe 1 vous accompagne.
Vous êtes avec Michel Onfray, vous êtes bien, c'est l'été, on prend le temps, 2 heures aujourd'hui, en tête à tête avec Michel Onfray qui se dévoile. Alors on va faire un tour dans votre bibliothèque, Michel Onfray, et vous allez nous parler de votre livre culte maintenant.
On raconte toutes sortes d'histoires.
C'est vrai, tout est vrai.
Livre culte.
Et pour parler mieux encore de ton livre culte, un autre monstre sacré nous rejoint, Gérard Depardieu.
J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas, je priais.
En pleurant.
Prier et pleurer sont deux actions qui sont très similaires.
Le couteau, c'était seulement pour vous faire peur, pour savoir si vous aviez de l'or caché. Je suis pas un assassin.
Si j'avais de l'or, je vous le donnerais aussi.
Je comprends pas. Pourquoi vous faites ça?
Mais pour vous racheter.
Je suis pas à vendre. Après 20 ans de bagne, je suis un homme libre.
Je vous parle de votre âme. Ce n'est que votre âme que j'ai rachetée aux puissances du mal.
Et ton livre culte, bien sûr, c'est Les Misérables. Là, c'est la version de José Dayan. Je ne sais pas si tu l'as vu à la télé.
Non, je préfère ne pas regarder les adaptations télé ou cinéma des œuvres que j'ai aimées.
Mais pourtant, celle des Misérables, il y en a même une avec Gabin.
Avec Gabin, bien sûr.
Que
oui.
Tu as vu, quand
oui,
même.
J'ai vu ça.
Il y a eu Lino Ventura.
Lino Ventura,
il y a eu Harry Bore aussi, avant, je crois.
Oui.
Il y a eu celle d'Ossène, c'était avec Belmondo. Alors, parle-nous des Misérables.
Chef-d'œuvre.
Absolu.
Oui, oui, chef-d'œuvre absolu.
Pourquoi ?
Tout y est. C'est-à-dire que d'abord, le cinéma s'y trouve, c'est évidemment avant le cinéma, mais il y a un découpage qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il nous raconte des choses, ça s'arrête, et puis les personnages disparaissent. Puis on passe à autre chose. On se dit, bon, voilà, par exemple, on a eu les Thénardier qui s'occupent de Cosette, Fantine est morte, et s'est faite avoir par un sale type qui lui a fait un enfant, fils de la bourgeoisie, et puis tout le monde disparaît. Et puis on a Waterloo. On se dit, oh là là, Waterloo, 40 pages, 50 pages en Pléiade sur Waterloo. On se dit, bon, d'accord, il est allé sur place, il a travaillé, il aimait Napoléon. Bon. Et puis à un moment donné, ça se termine, il y a un type qui est sur le champ de bataille et la description de Victor Hugo est formidable. On voit une espèce d'ombre qui se penche sur un bras qui sort de la terre et ce bras sortant de la terre, évidemment, on voit la main et sur la main, il y a une alliance et il y a une phrase de Victor Hugo qui est extraordinaire. Il dit en gros, l'ombre se penche, l'alliance a disparu, quoi. Donc on voit que quelqu'un a volé, c'est un détrousseur de cadavres. Et on entend un bruit, ce type est sous la terre, et donc l'autre le sort, il voit bien que ce type est quasi mort, et puis il en profite pour lui piquer sa montre, lui piquer de l'argent, et puis l'autre lui dit « Ah, vous me sauvez, écoutez, j'ai un peu d'argent, prenez, c'est pour vous », et il fait semblant de le fouiller en disant « Bah non, vous n'avez plus rien », et l'autre lui dit « Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir vous offrir ça, et bah c'est pas grave, etc. » Le type va mourir, et lui dit « Voilà, je m'appelle comme ça, souvenez-vous de mon nom, etc. Et vous, vous appelez comment ? » Et le type dit « Thénardier ». Ah, c'est extraordinaire, ce type était parti il y a longtemps, le voilà qui réapparaît. Et c'est comme ça dans la totalité de l'œuvre. C'est-à-dire, on voit son fils réapparaître, on voit des gens mourir, Jean Valjean, à un moment donné, il tombe du bateau, et puis il est parti sauver quelqu'un sur les mâts, il tombe, on dit il est mort, finalement, non, il n'est pas mort, il réapparaît. Donc, il y a un truc formidable dans la construction. Ensuite, il y a des personnages qui sont des types. C'est-à-dire, Jean Valjean, c'est un type particulier, Cosette, Fantine, ce sont des genres. Javert, c'est le flic, c'est vraiment le flic, c'est Fouché d'une certaine manière. Et c'est aussi une défense des misérables, véritablement. Et cette façon de dire, regardez comment elle fonctionne, la misère, comment on y parvient, comment on devient une prostituée, par exemple. Comment est-ce que Fantine se met à se prostituer un jour, la mère de Cosette, et comment elle finit par vendre deux de ses dents. C'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé de vendre ou de louer des parties de son corps. Et c'est comme ça sur 12 volumes. Enfin, quand c'est considérable, Les Misérables. Tout s'y trouve, les portraits, la psychologie, des considérations sur tous les sujets. Et puis, une défense de ce qui est pour moi la gauche. C'est-à-dire la proximité avec les gens du peuple, avec les misérables, justement, avec les miséreux. Et ça,
c'est la vraie gauche, celle que tu cherches toujours.
Non, je l'ai trouvée.
Mais elle est où ?
Elle a trahi. Depuis 1983, elle a trahi. Elle n'est pas chez Mélenchon qui poursuit une carrière personnelle. Elle n'est pas chez Macron qui fut d'une gauche qui était celle de Hollande. Elle n'est pas chez les sociolibéraux de l'Europe, etc. Ce n'est pas ça, la gauche, pour moi.
Alors, elle est où ?
Elle est parfois chez des gens de droite. C'est-à-dire, elle est parfois chez des gens qui disent que le peuple est premier, que le peuple est souverain, qu'on ne peut pas mépriser les gens comme on les a méprisés. Je songe aux gilets jaunes. Je pense qu'être de gauche, c'est être du côté des gilets jaunes au départ. On a vu par la suite comment il a fallu détruire les gilets jaunes. Mais je vois bien comment Victor Hugo aurait pu raconter cette aventure des gilets jaunes du début jusqu'à la fin, leur récupération, leur destruction, justement, par les gauches institutionnelles.
Fantine, tu en parlais, la voilà incarnée par Charlotte Gainsbourg.
Fantine, vous n'avez pas entendu ?
Avec votre permission, Madame Victurnien, j'aimerais rester encore une heure ou deux. Mon travail n'est pas terminé.
Mais je vois bien, vous avez lambiné toute la journée.
Oh non, madame. Mais j'ai les doigts si enflés que j'ai pas pu nouer mes fils, alors forcément...
Les ouvriers ont toujours de mauvais outils, allez. Laissez ça, vous terminerez demain.
Oui, mais c'est aujourd'hui que les comptes du mois doivent être arrêtés. Et si mon quota n'est pas atteint, je toucherai 20 sous de moins.
La belle affaire, ils vous seront reportés le mois suivant.
Oui, mais c'est que j'en ai besoin ce mois-ci, madame.
Je sais bien que vous êtes toutes ici de pauvres filles, mais enfin, pas au point d'en être à 20 sous près.
Moi aussi.
Et si vous faites des heures supplémentaires, je serai obligée de vous compter le prix de l'éclairage. Vous devriez le savoir depuis le temps que vous travaillez ici. Ce que vous gagnez d'une main, vous le perdez de l'autre.
Alors, convaincu par cette interprétation de Charlotte Gainsbourg ?
pas trop, non. Mais en revanche, c'est un moment important dans le roman. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'argent, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, Cosette, sa petite fille, est partie chez les Thénardier. Les Thénardier lui font croire qu'elle est malade et qu'il faut qu'elle donne de l'argent pour qu'on puisse aller chercher un médecin et sauver sa fille. Et donc, il dit, mais comment est-ce que je peux faire pour trouver de l'argent? J'en ai déjà pas avec ce que je gagne, parce que c'est misérable. Et en fait, elle est dans le moment dont je parlais tout à l'heure précédemment. C'est-à-dire qu'elle va traverser un marché, elle voit un type qui achète des dents pour fabriquer des dentiers pour les riches. Et même chose, il y a cette espèce de génie de l'écriture chez Hugo, parce qu'à un moment donné, elle va, elle a un joli sourire, elle revient, et puis elle sourit et elle a du sang plein la bouche. C'est-à-dire, il y a deux phrases juste pour nous expliquer qu'elle s'est fait arracher ses dents. Et c'est assez terrible, et j'ai du mal à imaginer Charlotte Gainsbourg sans ses deux dents de devant. Les palettes, comme dit Victor Hugo.
Que pense Hugo de la justice, à ton avis ?
Ah, il pense ce qu'il faut en penser. C'est-à-dire qu'on connaît cette idée qu'une école ouverte est une prison fermée. Je sais que ça énerve beaucoup Éric Zemmour, mais qui nous dit que c'est l'invention de la gauche, de la justice, qui prend toujours la défense des victimes, etc. Mais des bourreaux, pardon. Mais on n'est jamais bourreau par hasard. Et moi, j'ai fait des conférences dans des prisons, j'en fais encore aujourd'hui. Et on voit bien la sociologie des gens qui s'y trouvent. Il n'y a aucun problème. On voit bien que ce sont des gens que la société a quand même maltraités pendant très longtemps. Ceux dont ce n'est pas le cas qui font de la délinquance en col blanc, vous voyez, ils peuvent exercer la médecine normalement, ou d'autres, enfin peu importe, on ne donnera pas les noms, mais on voit bien qu'il y a vraiment des justices de classe. Et Hugo dit, il y a un moment donné où il dit, mais les gens partent aux galères, et parfois ils sont partis aux galères parce qu'ils ont mis un collet à un lapin qu'ils ont récupéré sur la terre des seigneurs. C'est-à-dire, vous pouvez passer une vie sur les galères simplement parce que vous aurez récupéré un lapin pour votre propre famille. Et parfois, c'est une pomme que vous ramassez sous un pommier alors qu'elles sont en train de pourrir dans le verger de quelqu'un. Et on récupère ce type-là en disant, vous êtes un voleur, vous partez aux galères. Donc évidemment, Victor Hugo, notamment dans Les derniers jours d'un condamné, dit des choses qui sont justes sur ce sujet-là, en disant, mais attendez, la peine de mort, les galériens, tout ça, ça n'est pas possible ou ça n'est pas pensable. On ne peut pas non plus estimer aujourd'hui que les gens qui se trouvent en prison sont des gens qui n'ont pas eu un passé qui justifie leur présence dans les prisons. Donc ça aussi, ça devrait être une pensée de la gauche. Il ne s'agit pas non plus d'abolir les prisons, mais il s'agit de faire le nécessaire pour qu'ils n'y aillent pas, et quand ils y sont, pour qu'ils n'y retournent pas, qu'ils ne s'y radicalisent pas. Et la pensée qui était celle de Victor Hugo, il y a parfois des pages magnifiques, 3 ou 4 pages sur la question de la prison, de la justice, de l'école, qui pourraient être aujourd'hui des pages programmatiques pour un président de la République.
Europe 1. Vous écoutez Culture Culte jusqu'à 18h sur Europe 1, car Zéro reçoit aujourd'hui le philosophe Michel Onfray. Alors on va arrêter de parler littérature maintenant, puisqu'on va parler de votre enfance. Dans un instant, Michel Onfray, avec une chanson qui vous ramène en enfance. Votre Madeleine de Proust en musique, c'est dans un instant sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. Prudence, hein, si vous êtes sur la route du retour des vacances ou sur la route des vacances, écoutons maintenant cette joyeuse bande composée de 6 musiciens originaires de Paris. Voici un extrait de leur premier album sorti il y a un an, L'Impératrice. Voici Matahari sur Europe 1.
L'impératrice sur Europe 1, c'était Mata Hari. Il est 17h31, bienvenue sur Europe 1, le moment de retrouver Carl Zéro et Michel Onfray, son invité.
Vous écoutez Culture Culte sur Europe 1, ça fait du bien l'été, on prend le temps de découvrir des personnalités. Aujourd'hui, le philosophe Michel Onfray vous dit tout. Il n'a aucun filtre aujourd'hui, il partage tous ses souvenirs et en fait un bond en enfance et en musique.
La force, elle t'appelle.
16h-18h, Culture Culte.
Rien ne nous arrêtera.
Carl Zéro sur Europe 1.
Et là, subitement, je regrette d'être à la radio, car Michel Onfray va pleurer. Car voici sa chanson qui lui rappelle son enfance.
Les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux.
Ça y est, tu pleures vraiment. Je vois que tu as les larmes aux yeux.
Non, enfin, je me retiens, mais oui, intérieurement, je pleure. Oui.
Ça te fait penser à ton père?
Oui, parce que justement, mon père écoutait Europe 1 et qu'à une époque, je travaillais dans une usine et je me levais un petit peu plus tôt que lui et je partais au moment où il descendait pour le petit déjeuner.
Oui.
Et un jour, il y avait cette chanson de Daniel Guichard et mon père, qui ne me donnait pas de leçons du genre « je vais t'expliquer quelque chose, je vais te dire ceci », mon père m'a toujours expliqué les choses par l'exemple, il a été exemplaire, toute son exemple. Et ce matin-là, il me dit « tiens, écoute, c'est une belle chanson ». Et je veux dire que quand mon père disait une chose pareille, j'écoutais quoi. Je me disais, pourquoi c'est une belle chanson? Je me suis dit, oui, c'est une belle chanson. Et puis après, je me suis dit, mais c'est plus qu'une belle chanson. C'est vraiment plus qu'une belle chanson. C'était une espèce de déclaration d'amour aussi de la part de mon père qui disait, si tu as à me dire que tu m'aimes, dis-le moi tout de suite parce qu'un jour je ne serai plus là et ce sera probablement trop tard. Et elle a joué un rôle important, cette chanson, dans ma vie parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait des choses à dire et qu'il fallait dire aux gens qu'on aimait, qu'on les aimait. Que c'était beaucoup trop tard, même de le dire tard. C'est toujours très bien de le dire même tard, mais sauf qu'on perd des années à ne pas se le dire quand on l'a pensé qu'on aurait pu le dire. Et je me suis dit, j'ai eu la chance de lui montrer. Je l'ai emmené au Pôle Nord pour ses 80 ans. Il est mort dans mes bras. Enfin bon, j'ai raconté tout ça. Et ça a été l'occasion pour moi de me dire, cette chanson, ne passe pas à côté de ton père et fais-lui savoir. Et mon père était comme les gens de la terre, silencieux, taiseux, pas démonstratif. Il m'a posé une fois la main sur la tête quand j'ai eu mon bac. J'avais 17 ans, c'était en juin 76. J'ai eu mon bac, il m'a posé sa main sur la tête. J'ai encore le poids de cette main sur cette tête. Et c'est tout. C'est-à-dire, je l'ai embrassé pour lui dire bonjour, au revoir, mais il n'y a jamais eu de démonstration affective. On ne faisait pas ces choses-là, quoi. Ça se montrait pas, ça ne se disait pas, ça ne se racontait pas. Et dire, écoute, cette chanson, c'est une belle chanson, c'était déjà beaucoup. Mais je trouve que c'est une chanson qui invite à dire, ne perdez pas le temps de dire que vous aimez quand vous aimez.
Michel, tu en parles très bien. Mon vieux, Daniel Guichard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne, ça ne le rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite,
même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Mon vieux Daniel Guichard sur Europe 1, qui est la pépite, la Madeleine de Proust musicale de Michel Onfray.
Europe 1.
Michel Onfray, on le connaît presque par cœur grâce à cette émission. Aujourd'hui, nous allons encore passer quelques minutes ensemble. Il est presque 18h, Michel Onfray.
Il y a encore beaucoup de découvertes.
Mais on a encore beaucoup de découvertes à faire. Et
ses
goûts
musicaux sont à coucher dehors.
Elles vont se faire en musique, ces découvertes, puisque dans un instant arrive votre hit parade, Michel Onfray.
Le mec est fou.
Et puis, je conseille aux auditeurs de rester avec nous jusqu'à 18h, parce que Michel Onfray va pousser la chansonnette. Et ça, c'est un scoop et c'est une exclusivité unique. C'est juste pour Europe 1.
Culture Cult.
Passez un bel été sur Europe 1.
Il y a beaucoup de musique dans Culture Culte tous les samedis, tous les dimanches, 16h, 18h sur Europe 1, grâce à Carl Zéro et ses invités qui se remémorent leur vie en musique. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir le hit parade de Michel Onfray.
16h, 18h, Culture Culte sur Europe 1.
Qui êtes-vous ?
Carl Zéro.
SLC, salut les copains. On commence par Mobilis in Mobile de l'affaire Louis Trio. Alors ça, Michel, c'est la chanson que tu te mets à fond pour te motiver avant un rendez-vous important.
Oui, enfin, je n'ai pas vraiment de rendez-vous important, mais c'est vraiment la chanson que je me mets parfois à fond parce que je la trouve assez parfaite dans son genre.
Mais comment tu l'as découvert, cette chanson ?
Oh, comme
ça, je ne te voyais pas du tout en fan de l'affaire Louis Trio, Chic Planet...
Non, juste cette chanson.
Juste cette chanson-là.
Je ne connais pas les autres œuvres de ce monsieur dont la mort m'a fait de la peine. Je ne le connaissais pas, je jamais rencontré, etc. Puis j'ai
grand talent.
Oui. Et depuis, j'ai dit une fois ou deux que j'aimais beaucoup cette chanson-là. Et sa famille est entrée en relation avec moi. J'ai reçu il y a quelques jours un roman qu'il avait écrit. J'ignorais tout ça. Et je vais regarder ça parce que ça me plaît beaucoup. C'est très poétique. Elle est très poétique, cette chanson. C'est-à-dire qu'il y a... J'ai écrit un long poème, j'ai écrit une quinzaine de recueils de poésie. Et l'une des images porteuses d'un de mes recueils... qui s'appelle La constellation de la baleine, est un peu partie de cette idée d'une baleine chevauchée. C'est un petit peu comme la baleine de Jonas, etc. Et je trouve que c'est une poésie très riche, c'est-à-dire que vers après vers, on les reprend et on n'épuise jamais cette chanson. Donc oui, de temps en temps, dans ma salle de bain, dans ma voiture, je mets ça à fond.
Miossec en a fait une reprise en 2016.
Quand les vérités sont trop lasses pour douter du temps qui passe, d'autres ont déjà pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent, sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour.
J'irai voir. Pas mal, mais moins bien que celle d'Hubert Mounier, non ?
Moi, j'aime bien Miossec, hein, donc j'aime bien sa voix, mais il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais chanter les chansons que quelqu'un a déjà chantées. Il ne faut pas chanter Brel, il ne faut pas chanter Brassens, il ne faut pas chanter Ferré.
Bah, ils le font tous pour
hélas,
ça.
Hélas, bah oui, mais bon, voilà, quoi. Ou comme Depardieu, quoi. C'est-à-dire, c'est plus chanté, c'est réinterprété. Quand Barbara est rechantée ou chantée à nouveau par Depardieu, c'est autre chose.
Bon, il ne chante quasiment pas. Il psalmodie.
Oui, mais bon, c'est Depardieu aussi. C'est mais la souffrance de Depardieu.
Oui, oui.
C'est...
Beaucoup d'émotions.
C'est ça.
Alors, on passe maintenant à la chanson que tu as honte d'aimer. Il y en a beaucoup. Hein.
Oh là, il y a une pépite qui arrive alors.
Ah, énorme pépite. Félicie, de Monsieur Fernandel.
Oh, ceci dit, j'ai à peine honte.
Allez, bon, allez, on l'écoute pour de vrai, parce que moi, j'adore aussi.
C'est dans un coin du Bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne. Et moi j'arrivais en taxi, je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une gibelotte, elle embaumait l'échalote, Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura « Quand tu voudras ». Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie aussi. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie aussi. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie aussi.
Félicie aussi de Fernandel,
oh,
sur Europe 1.
Ça fait du bien.
Puis qu'on parle de Fernandel, on salue tous ceux qui nous écoutent du côté de Carilrouet cet été au bord de la mer.
Bien sûr, un énorme bisou.
La ville de Fernandel, effectivement. Vous écoutez Culture Culte, vous êtes bien, c'est l'été avec Carl Zéro sur Europe 1.
Europe 1.
Et pendant encore quelques minutes, parce qu'il est déjà presque 18h, nous allons découvrir autrement Michel Onfray. Alors on sait ce qu'il aime à la télé, on sait ce qu'il aime à la radio, on sait qu'il adore Jean Gabin, on a lu ses livres à Michel Onfray, mais maintenant vous allez pouvoir dire que vous connaissez Michel Onfray, chanteur.
Ah,
et grâce
et
à qui ? Grâce à Culture Culte sur Europe 1, tout de suite. Culture Culte, votre émission de l'été. Oh, c'est bientôt la fin, ça passe trop vite, rassurez-vous, c'est tous les samedis et tous les dimanches. Et c'est en podcast aussi, hein. Vous pouvez retrouver tous les numéros de Culture Culte tout l'été sur europe1.fr en podcast. Abonnez-vous. Aujourd'hui, Carl Zéro, Michel Onfray est notre invité et nous allons découvrir, pour finir avec une cerise sur le gâteau, sa pépite musicale.
Quand toi tu bues et marche à l'ombre.
Chanson culte.
Alors là, tu nous as réservé un très beau cadeau, Michel. D'abord, tu as choisi comme pépite musicale à faire découvrir aux autres. Il paraît que toi-même, tu essayes toujours de faire entendre ça aux personnes qui passent chez toi en disant « Ah, je connais une chanson qui est géniale, Les Nuits d'une demoiselle de Colette Renard », c'est vrai ou pas ?
Oui, oui, oui.
Et généralement, quel est le...
Non, je ne fais pas forcément à tout le monde, mais il y a un moment donné où quand j'ai bu un petit coup, que les copains ont bu un petit coup et qu'on est un peu complices, je ne fais pas ça à tout le monde. je dis « Ouais, cette chanson géniale, écoutez !» Et voilà. Mais c'est un tel bijou pour le coup poétique.
Oui,
c'est vraiment un...
très bien écrit.
Ah oui, oui, oui. J'ai compté tout à l'heure les pieds. Il y avait Octocide là, mais il n'y avait pas que ça. Enfin, mais ça reste quand même une prosodie très classique, mais c'est drôle. C'est une espèce de richesse verbale incroyable.
Que c'est bon. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule.
Une chanson qui a été interdite de diffusion à la radio pendant extrêmement longtemps, tu savais ça ?
Non, je ne savais pas.
Ah, oui. Ah si, si, évidemment pas à sa sortie, et même je crois que Radio Nova l'a passé en 83 et pareil, il y a eu une plainte de la haute autorité, l'équivalent du CSA de l'époque, parce que c'était insupportable d'entendre une telle chanson. Jeanne Chéral l'a reprise avec des expressions d'aujourd'hui, elle l'a un peu modernisée.
Je me fais liquer le profil, je me fais bloquer le code PIN, je me fais vibrer le sans-fil, je me fais bugger la machine, je me fais exporter le point com, je me fais démonter le bureau, je me fais appuyer la touche POM. Je me fais exploser le réseau.
Pas mal, bel essai, bel essai. Moins fort quand même que le texte original, non ?
Ah, c'est pas mal, moi je découvre, je connaissais pas, c'est bien, c'est drôle.
Alors tu repars avec le CD, on va te le filer. Mais avant, tu as fait une promesse. Tu as fait une promesse en début d'émission. C'est de nous interpréter avec ta voix chaude.
Sûrement pas.
Mais si. C'est une nuit d'une demoiselle. Ah alors non. Tu as le droit de le slammer. Tu as le droit de le slammer, tel un Abdel Malik. Ou de le chanter si tu as envie, mais je pense que tu vas être meilleur en slam. Michel Onfray, chanteur, c'est sur Europe 1 dans Culture Culte.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondonne, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin. Je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot. Je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Et vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres, le jour. Je baise, tout simplement.
Je savais que tu pouvais faire du slam et on vient de le prouver. Tu es quand même exceptionnel. Un grand merci à toi d'avoir passé avec nous ces deux heures de Culture Culte. On en a appris beaucoup sur toi. On t'a découvert très différent de ce qu'on entend d'habitude. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde, Anissa.
Ouais, c'était une belle découverte, en effet. Merci, Michel Onfray.
Merci, vous êtes gentil.
Et alors, demain dimanche, Anissa, dans Culture Culte, qui est-ce qu'on aura ?
Demain, une nouvelle émission de Culture Culte, à partir de 16h. Deux heures en compagnie de l'humoriste Jérémy Ferrari. Europe 1.